Bienvenue à la French Connection, épisode 67.
Bonjour, cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut!
Richer.
Salut!
Patrick.
Hey, salut!
Et finalement, Steve qui est à Haïti cette semaine.
Bonjour à tous!
Donc, on commence avec les Shameless Plugs. En décembre, Isaka va présenter la sécurité des systèmes d'information dans leur Concept 100, qui va nous présenter Security and Privacy by Design. Le 25 octobre, Québec Sec, My Experience Hacking Video Game, partie de 1 de 2, qui va être fort intéressante de voir qu'est-ce qu'il y en est. 2-3 novembre, le Hackfest qui aura lieu. Il reste pratiquement plus de billets, dépêchez-vous. Les CTF sont pratiquement pleins, ou certains sont déjà pleins. J'ai vu le rush pour les quelques billets qui ont ouvert à la dernière minute et ça a été...
Ça s'est vendu en 30 secondes, c'était malade.
Complètement fou, il reste quelques places au Social Engineering, CTF et quelques petits éléments comme ça, fait que dépêchez-vous si vous voulez y aller, il ne restera plus de place bientôt. 22-23 janvier à Lille, FIC, qui aura lieu là-bas et à laquelle je vais aller manger de la poutine avec Damien et probablement assister au confessionnal de sécurité qui sera animé par Damien, c'est ce qui va être fort intéressant. Et finalement, le 8 avril, le Secure, qui est un événement qui sert à fédérer l'ensemble des associations de sécurité du Québec dans un événement unique dans lequel on aura l'occasion de tous se côtoyer. Donc, commençons avec nos nouvelles. Steve, tu es à Haïti pour un événement de sécurité.
Tout à fait, le CyberCon Haïti qui a lieu pour sa deuxième édition ici. C'est dans le but de rassembler les professionnels de l'industrie, principalement, encore là, je suis un de peu Canadiens qui sont ici de Montréal, mais il y a des gens qui proviennent de Californie, d'Europe, donc de France, et des gens, des professionnels d'Haïti qui sont ici à ce moment-là pour encore informer les gens, informer de la base. Ça commence avec Cybersecurity 101 et après ça, on s'en va dans des contextes où ce que c'est l'intelligence artificielle qui met à contribution et que les gens à ce moment-là sont davantage aguerris là-dessus. Fait que c'est très intéressant. Ça va être, je contribue à ce que ça amène justement un meilleur aperçu, plutôt de profondeur au sujet. Et il fait 34 degrés C, c'est fantastique ici.
À constat qu'au Québec, il commence à faire plus frisquet, je ne sais pas, pas négligeable ce genre de choses-là. Et en termes de participants, c'est plus des gens locaux là-bas ou ça regroupe un peu cette zone géographique-là?
C'est plutôt une centaine de personnes locales qui, évidemment, de Port-au-Prince se sont déplacées pour venir ici. Le coût d'entrée, c'est vraiment pas exorbitant, là, c'est 25 $ mais encore là, c'est juste pour couvrir quelques frais d'administration ici et là. Mais le but premier, c'est vraiment d'inviter les gens à venir participer à l'événement, participer à se renseigner davantage. J'ai cru entendre qu'il avait commencé peut-être à faire un essai avec du webcast pour être capable de diffuser ça davantage. Ça reste à voir s'ils vont le faire dans un avenir rapproché de façon permanente pour être capable de rejoindre la communauté haïtienne, les communautés haïtiennes partout dans le monde.
Super intéressant. Passons à la nouvelle suivante. Vincent, Apple a mis son pied à terre en Australie?
Eh oui. C'est qu'en Australie, il y a une nouvelle loi. Puis Apple juge que cette loi-là risque d'être dangereusement ambiguë. Alors, bon, on sait qu'Apple a mis au point une de ses meilleures défenses en matière de chiffrement, affirmant qu'il s'agit du meilleur outil dont il dispose pour protéger les données, puis peut-être même sauver des vies. Toutefois, quand il a présenté sa technologie au gouvernement australien, ce dernier, en fait, il l'a présenté en réponse au projet de loi sur le chiffrement dans le pays, qui serait dangereusement ambigu. Le Parlement australien étudie actuellement des nouvelles lois sur le chiffrement qui obligent les géants des technos Apple, Facebook, etc., à fournir un accès aux communications chiffrées aux forces de l'ordre pour contrôler la criminalité. Bon. Le projet de loi sur l'assistance à l'accès définit 3 niveaux d'assistance des entreprises où les entreprises peuvent être appelées à fournir à la police et ou aux agences de sécurité nationale. C'est de l'assistance volontaire jusqu'à un avis du procureur général exigeant justement du secteur qu'elle construise une fonctionnalité matérielle ou logiciel pour permettre un accès à des communications chiffrées. Sauf que Apple a critiqué le projet de loi, affirmant qu'il était trop large, le libellé était trop ambigu, puis il créerait des pouvoirs sans précédent pour les forces de l'ordre, justement. On dirait que c'est du déjà vu, mais bon. Apple a également déclaré que les lois australiennes proposées pourraient forcer une société, en fait, forcer Apple à enfreindre les lois d'autres pays, tels que les États-Unis ou l'Europe, si ça devait justement entrer en vigueur. et si ça devait être appliqué dans le contexte australien. Et ça pourrait compromettre la vie privée, en fait. On ne contrôlerait pas de quelle vie ça compromettrait. Alors voilà, c'est ma petite nouvelle. C'est présentement à l'étude. Alors on ne sait pas ce que le gouvernement australien va faire avec ça, mais son projet de loi manque beaucoup de précision.
Donc on retourne dans le concept du backdoor, du chiffrement et tout un peu.
Bon, on recule de 40 ans, ben oui. Comme on retourne sur le central, ben oui.
Et oui, c'est toujours préoccupant ce genre de choses-là, parce qu'on revient toujours sur le même débat, mais encore, on ne trouve pas encore de solution adéquate pour tout le monde.
Juste un petit débat entre nous comme ça. Scomic, par exemple, en fait, j'ai l'impression que tout le gouvernement semble vouloir ce genre d'accès-là, mais ils ne s'entendent pas entre eux autres. Tout le monde veut sa petite part de tarte. Puis ils savent très bien que si l'un qui l'a, ça pourrait justement déborder la frontière à gauche, à droite, au lieu d'essayer d'avoir un consensus. OK, là, je rêve en 3D, je le sais, là, mais tu sais, l'idée de base, ce serait peut-être qu'ils s'entendent, je ne sais pas, moi, l'ONU, l'OTAN, peu importe l'organisation. Mais bon, vous voyez où je veux en venir, là? Vas-y, Steve.
Bien là-dessus, présentement, c'est un test, c'est un essai qui est fait avec l'Australie. C'est le club des Five Eyes là, qui parraine ces genres de projets-là. Et l'Australie, oui, sont bien positionnés. Le gouvernement est quand même assez directif dans ces approches-là. Il pourrait le faire au UK, donc en Angleterre. Cependant, il y aurait beaucoup d'opposition, puis les partis politiques, les oppositions sont quand même assez féroces. Alors qu'ici, au Canada, bien, il y a certaines lois qui font en sorte que ça nous protège encore présentement, mais ça ne prend pas grand-chose avant que ça pourrait rentrer, parce que le gouvernement en place, il a déjà laissé savoir qu'il serait favorable à ce que la sécurité publique, ou plutôt les services de renseignement, les services policiers, y aient accès rapidement à des communications pour empêcher, évidemment, toute organisation dite illégale, pour ne pas dire terroriste, là, qui puisse à ce moment-là échanger des communications sans qu'ils le sachent. Aux États-Unis, bien, évidemment, ils sont toujours sous le microscope. Il n'y aura pas l'autorisation du Congrès pour faire des choses légales dans ce sens-là. Fait que l'Australie, présentement, c'est un test-bed. Et heureusement, je trouve que c'est fantastique qu'Apple puisse s'impliquer et ils disent « wow, 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 attends un peu ». Sans ces gros appuis-là, on n'aura pas, le citoyen normand n'aura pas gain de cause dans ces apports-là de protection de la vie privée et ça ne prend pas grand-chose. Il s'agit qu'il y en ait encore une fois deux, trois gros qui disent non, 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 nous autres, on vous donne les clés puis voici, allez-y. Mais avec qu'est-ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite, il n'y a pas longtemps, on le voit, puis là, je parle de Citizens Lab avec l'espionnage avec Pegasus sur les téléphones mobiles de certains ressortissants et avec l'histoire qui vient de se passer avec l'autre bonhomme qui s'est fait recevoir d'une certaine façon en Turquie, laisse entendre que ça va être davantage un point très, très, très important pour ne pas laisser pendre et laisser disparaître cette cryptographie-là, parce que c'est à la base de notre protection de la vie privée. Fait que comme tu as dit, Vincent, si on laisse dissoudre juste parce qu'on se cache derrière la peur et la crainte qu'on va se faire à ce moment-là, on va être en sécurité parce que le gouvernement a tout en place, mais désolé, c'est comme désarmer une population puis dire juste les policiers ou juste le gouvernement a des armes. On a vu avec l'histoire des 500 dernières années, qu'est-ce que ça a pu faire.
Effectivement, c'est très préoccupant. Et en parlant de préoccupations, les soldats ont certaines préoccupations sur le cyberterrorisme.
Oui, c'est un petit. J'ai trouvé ça intéressant, cette nouvelle-là, qui a été faite au niveau des militaires américains. Quand même un échantillon assez petit de 869, si mon souvenir est bon, de soldats qui ont retourné. 829 réponses qui ont été retournées au quotidien Military Times aux États-Unis, qui laisse savoir que parmi les plus grandes préoccupations, ça c'était une des questions du sondage, qu'est-ce que les troupes américaines, tout domaine confondu, qu'est-ce qu'ils craignent le plus? C'est-tu des attaques des Russes, des Chinois, des Syriens? Qu'est-ce qu'ils habitent? Et à 89% de ces gens-là qui ont répondu disent que c'est le cyberterrorisme. Alors, ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est OK, c'est-tu donc le cyberterrorisme envers les opérations militaires ou bien c'est du cyberterrorisme envers les familles et les particuliers qui sont davantage aux États-Unis? Parce qu'il est arrivé dans les dernières années où ce que les familles ont été directement interpellées après les derniers conflits en Irak, en Afghanistan, et ce ne sont pas les troupes sur le terrain qui était davantage ciblé, mais bien tout ce qui est famille et connotation de proche-parent. Fait que là-dessus, c'est, je crois que la crainte, elle est fondée parce que ça devient un maillon faible, parce que dans tout conflit, si on veut s'attaquer à gagner plutôt la faveur populaire et gagner l'esprit des soldats, bien, c'est de s'attaquer à la famille. Le meilleur exemple avec lequel les études ont été commencées là-dessus, c'est avec le Vietnam, où ce que vraiment la effervescence populaire a été mise à contribution, je veux dire, les mouvements de protestation, etc., qui a miné beaucoup le moral des troupes qui étaient en avant-plan et qui, à ce moment-là, ça a donné une instabilité politique à travers tout ça. Fait que l'opération militaire a eu la difficulté à réussir. Comme ben, en Irak, ça a été le cas dans la première guerre du Golfe, la deuxième plus ou moins, mais c'était quand même pas trop jojo de pouvoir s'impliquer là-dedans. Fait que si les soldats ont cette préoccupation-là, je ne sais pas jusqu'à quel point le gouvernement va vouloir s'impliquer et mettre des moyens sécuritaires pour les familles, mais la première étape va être par l'éducation, d'après moi, qui vont pouvoir s'investir davantage à former les familles, davantage qu'ils le font actuellement, mais pour leur donner les moyens nécessaires pour garder contact avec la famille de ceux qui sont sur le terrain versus en arrière-maison.
Oui, effectivement, très important. Et passons à une nouvelle peut-être un peu plus farfelue ou en tout cas particulière. Le SQDC a fait un petit problème lors de son lancement?
Oui, fait que cette semaine, c'était la grande nouvelle des boutiques gouvernementales qui vendent du cannabis. Et à la première journée, SQDC, qui est celle-là, la SAQ du pot, si on peut dire, au Québec, ont un site web pour commander ces drogues-là. Et un utilisateur quelconque a tweeté que le site web leakait les infos personnelles de toutes les personnes qui ont créé un compte sur le site web en tant que tel. Donc, qui ont... sur la page de connexion, en fait, le login, qu'on faisait une connexion vers le site web, il y avait tous les users et les prénoms, noms, famille qui étaient affichés dans un instant sur la page web. Donc, on croit un peu en une fonction de débogage qui n'a jamais été enlevée et qui affichait tout ça. Ça a été rapidement enlevé, mais ça dit quand même comment que le site web a bien été construit, très rapide, bien testé et tout. On se retrouve encore avec la qualité ici. Là.
Ouais, je pense que c'est dans un autre cas de pénurie, comme là, on a la pénurie dans les magasins. Je pense qu'il y a eu pénurie dans ce cas-ci de vérification. Donc, on peut aller dans cette perspective-là.
Il n'y a pas besoin d'une grande qualité de test. Là. Ça affichait à l'écran et ou si on prenait un braseur Man in the Middle, un genre de Burp Suite, tout le monde l'aurait vu passer, là, évidemment. Oh!
Ça donne l'idée que ça a été fait à la dernière minute, ça, encore. Là.
Non, personne n'a dit ça, voyons.
Moi, je l'affirme, je l'avance, puis je suis.
Oui, malheureusement, ça a vraiment été fait à la dernière minute, mais rien de qu'on ne s'attendait pas, mettons.
En disant tant qu'à aller sur cette lancée-là, à quel point, dans les médias, cette semaine, ils croyaient que là, c'était la fin du monde et la fin du Canada et qu'on allait être emboucané comme ça se pouvait pas. Steve, qu'est-ce que les policiers peuvent trouver dans le nuage généré par ce genre de choses?
Bien, les policiers, justement, peuvent trouver multitude d'informations, dont, entre autres, des transactions financières. Aux États-Unis, eux autres, les services frontaliers, ils ont droit de vie ou de mort quasiment sur tout le monde. Et surtout lorsque les prochaines personnes consommant de ce SQDC-là se présenteront à la frontière, ben ils ont le choix d'être retournés chez eux et ne plus jamais être accéder aux États-Unis ou ne pas consommer puis être capable d'accéder aux États-Unis à nouveau. Fait que oui, c'est un rappel pour que les gens sachent que le service frontalier américain a plein accès à tout ce qui est dossier de crédit sans avoir besoin de mandat. Et s'ils ont encore un doute supplémentaire que vous êtes peut-être un trafiquants de drogue potentiels, bien, ils vont invoquer le Patriot Act. Et devinez quoi, la majorité des données que quelqu'un utilise, surtout pour Facebook, surtout pour Gmail, etc., bien, il y a des bonnes chances qu'ils soient entreposés aux États-Unis. Et si c'est entreposé aux États-Unis, mais les lois canadiennes ne s'appliquent pas. Fait que c'est de cette façon-là où, du coup, ils pourraient avoir de façon pleine et entière accès à votre vie électronique si tout est emmagasiné aux États-Unis. Fait que c'est un rappel que pour ceux qui vont consommer, bien, les services policiers aux États-Unis ont accès. Mais d'ailleurs, au Canada, c'est davantage le fait que de toute l'information que l'on véhicule aujourd'hui, que ce soit avec le Google Home, l'Alexa de ce monde, le Siri, tout ça s'est emmagasiné dans le fameux nuage. Et dans le nuage, qui dit nuage encore là, c'est dans une certaine juridiction. Mais admettons, pour le but de l'exercice, on dit que les données sont emmagasinées ici au Canada. Ben, lors d'une enquête, la police suspecte que les moyens électroniques qui ont été mis en nuage contiendraient de l'information, de la preuve pour être capable d'inculper quelqu'un. Ben, ils vont émettre un mandat au Canada, ils ont besoin de ça. Ils vont aller chercher l'information chez l'hébergeur et devinez quoi? Une borne Alexa, ça n'enregistre pas juste au besoin. C'est, le microphone est ouvert 24 heures. Ça peut être le OnStar dans votre véhicule. Ça peut être d'autres moyens où il y a un microphone. Et de cette façon-là, ils sont capables d'aller récupérer l'intégrité de la conversation qui a eu lieu. Évidemment, dans le mandat, ça va être précisé qu'entre telle date et telle heure, mais il reste toujours même, vous avez jasé de multitudes de choses, dans 24 heures d'une journée, ce qui fait en sorte que c'est une intrusion directe. Puis là, on ne parle pas juste de micro et de track vocal. Imaginez pour un instant, vous dites non, je n'étais pas à la maison, votre thermostat Nest que Google possède, que Google enregistre toutes les interactions que vous faites dans votre maison parce que Nest va détecter que vous êtes présent, vous allez jouer avec le thermostat, n'importe quoi. Donc, tout ça est rapporté dans le cloud chez Google et lorsqu'il y aura enquête, devinera à ce moment-là que, ben voici, le fournisseur dit que vous étiez présent ou du moins il y avait quelqu'un de présent dans l'établissement. Vous dites que vous n'étiez pas là, etc. Donc, ça va amener tous ces champs de trucs-là et on pourrait parler encore là des jouets électroniques qui pourraient être mis à contribution puis un paquet d'autres IoT comme ça que dans notre vie aujourd'hui, on veut se prémunir de cette facilitation de vie interconnectée jouer avec le téléphone intelligent pour être capable de gérer tout ça, mais le contre-coup, le contre-ballant, c'est que c'est toutes des données qui sont cumulées, sont déposées dans le nuage et qui ne serviront pas seulement qu'à faire des échanges d'informations pour des publicités, pour du marketing, mais aussi pour les forces de l'ordre parce que souvent la politique de rétention est assez obscure, pour pas dire des fois qu'il y a peut-être de 5, 7 ou 10 ans. Ça reste à lire parce que bien souvent c'est mal documenté dans le contrat, de petits caractères qu'on ne lit jamais et qu'on dit « on accepte ». Mais on accepte quoi? On accepte que ça soit entreposé à long terme aussi.
C'est effectivement très préoccupant, mais en même temps, tout ça est fascinant parce que, pour reprendre la nouvelle de Vincent, pourquoi les États veulent qu'on se débarrasse du chiffrement quand ils ont toute une capacité tout autre d'aller le fouiller avec eux? Ils ont comme, ils parlent les deux côtés de la bouche en même temps.
Ils veulent l'accès à tout, puis en même temps, tu sais, même si on revient sur le truc de la nouvelle de Vincent, l'espionnage, si on recule avant tout ce cloud-là, ils installaient des modules directement sur les lignes ou des malwares et autres. Ils sont encore capables de le faire, puis ils le font encore. Fait qu'ils ont accès à beaucoup de moyens pour avoir accès à toute l'information. Puis ils en veulent juste plus, encore. Mais j'ai bien hâte de voir un cas dans une cour où un lave-vaisselle va avoir compromis une personne pour un meurtre ou autre.
Le but de ma nouvelle, justement, Patrick, là, c'était un cas qui est arrivé au Wisconsin, en tout cas aux États-Unis, qui laissait savoir qu'ils ont été justement avec l'Alexa chercher les enregistrements, puis ils ont
présenté. Oui, exact. Celle-là, on l'avait vu. J'en avais vu d'autres aussi que c'était simplement le signal GPS du cellulaire que la personne est allée à un lac où la personne a été retrouvée morte.
Ouais.
La personne a toujours dit non, qu'il n'est jamais allé jusqu'à temps qu'il trouve la trace GPS, cellulaire et autres, qui allait directement sur le lac compromettre son alibi. Puis ça, c'est standard, mais là, rajoute toute la IoT et on se ramasse avec encore plus.
Ah, bien sûr. Puis il y a des cas documentés avec les OnStar qui ont activé le microphone dans l'auto sans que la personne le sache. Ils ont ajouté tout ce qu'ils se disaient dans l'auto parce que souvent, les gens vont aller s'isoler dans un auto. Ils se disent, ah, personne ne va nous entendre. Mais de plus en plus, les automobiles aujourd'hui ont tout un microphone, une capacité d'enregistrement quelconque. Fait que fini la vibration.
Ouais. Puis il y en a même qui ont des GPS, puis tu le sais même pas. Là, c'est les compagnies qui installent ça par défaut. Hein.
Puis essayer d'acheter une auto aujourd'hui sans ces systèmes-là, je crois que c'est quasiment impossible.
Ouais, faut que tu tripes voiture des années 70, mettons.
Ouais, puis ça s'en vient partout. On est malheureusement on le pose à la gorge. Mais en parlant justement d'invasion de vie privée, Walmart, des chariots intelligent?
Oui, mais là-dessus, Nicolas, tu sais que c'est pour le bienfait du consommateur qu'ils vont installer cette capacité d'être capable de monitorer si le monsieur ou la madame qui se promène avec son carte, qui n'est pas en forme, qui souffre de toutes sortes de conditions médicales, tout d'un coup devient faible, puis ils ne veulent pas les ramasser à terre sur le plancher du magasin. Donc, je trouve que c'est une belle prévention pour être capable à ce moment-là de que tout le monde magasine correctement.
Et qu'ils vont sortir du magasin avant?
Quasiment, ça va peut-être venir à ça. Mais tu sais, on sait très bien présentement que Walmart traque les gens avec le Wi-Fi, parce que rare, à part peut-être nous six ici présents, que nous cinq, qu'on désactive le Wi-Fi lorsqu'on se promène dans la rue, mais la majorité des gens ne le font pas. Fait qu'ils se présentent au magasin, la carte Wi-Fi émet, puis à ce moment-là, ils sont capables de traquer la MAC adresse lorsqu'elle se déplace dans le magasin. Ça, c'est une première étape. Mais de mettre ça sur le chariot, ils vont lire la biométrie des mains lorsqu'ils vont être sur le chariot et comprendre si la personne est excitée ou bien elle ne file pas bien, etc. Fait que dans mon cas, je pense qu'ils détecteraient que je suis toujours en pour être capable à ce moment-là de négocier mon chariot assez rapidement un peu partout. Mais c'est vraiment dans un but, je crois, d'être capable de percevoir la réaction des gens au placement de produits, mais en même temps, médicalement, prévenir peut-être quelqu'un qui va tomber d'un pomme, puis après ça, anticiper de secourir quelqu'un. Ça, évidemment, c'est l'essentiel.
Ça reste que ça peut être utilisé par les forces de l'ordre pour n'importe quoi, encore une fois. Là, si tu veux prouver tes assurances que tu étais en forme ou pas en forme, ils vont aller chercher ça, ils vont aller chercher ta Fitbit.
Exactement. Et ce qui n'est pas oublié, c'est que, autant comme tu dis, ça va être utilisé à mauvais escient, puis que les gens, premièrement, ils vont être mis au courant. En principe, une caméra de surveillance dans un magasin, c'est supposé être à l'entrée du magasin et dire « voici l'établissement sous surveillance », ça c'est selon les lois privées. Mais encore là, le commissaire à la vie privée du Canada sont en retard dans tout ce qui est loi qui protège la vie privée des gens à partir des moyens électroniques de documentation. On l'a vu récemment avec l'histoire du centre d'achat, où ce que le centre d'achat qui était à Cadillac Fairview à Calgary, il y avait une petite caméra dans un afficheur pour dire où ce que t'es, où tu t'en vas dans le centre d'achat. Oups, après que ça allait frapper les médias, une semaine après, ils ont dit, ben finalement, on va les enlever, on n'a plus besoin. Ah, que non, ça. Mais s'il n'y aurait jamais personne qui aurait dénoncé ça, plutôt, si le screen de debug n'aurait jamais été à l'écran, la majorité des gens ne l'auraient jamais su, puis eux autres auraient continué de documenter la reconnaissance faciale des gens qui s'y promènent, parce que la ligne était de documenter juste quel genre, encore là pour des fins statistiques, quel genre de personne qui vient, femme, homme, enfant, adulte, etc. Mais dans ce cas-ci, on va plus loin, on va avec la biométrie des gens, puis là, ça, c'est une signature quand même assez unique, et ça va davantage accentuer, là, comme on disait, la distinction là, entre un paquet différent dans le magasin.
On n'arrête pas le progrès. Et je ne sais pas, en tout cas, on verra à l'avenir ce que ça va donner. Et enchaînons avec une cyberattaque sur YouTube.
Ben oui, YouTube, la fin du monde s'est produit récemment cette semaine, où ce que qu'il y a une heure de temps, YouTube n'était pas disponible, puis ce qui est en tout cas quelque chose d'impensable. Deux histoires ont circulé sur le net à ce sujet-là. Il y en a qui ont dit à cause que des nouvelles qui ont circulé contre l'Arabie Saoudite, ça aurait été l'Arabie Saoudite qui aurait lancé une cyberattaque pour déstabiliser YouTube et d'empêcher que la nouvelle se propage davantage. Je trouve que celle-là, c'est un petit peu moins réaliste, mais il y a un autre groupe de hackers qui a pris la nouvelle, qui a pris la pole, comme on dit, et qui se sont lancés à l'avant-plan, puis qui ont dit eux autres qui ont fait, c'est eux autres qui ont mené la cyberattaque, qui ont fait ça soit par une attaque de DNS par réflexion, ou tout simplement, ils auraient été capables de faire une attaque par fragmentation IP. Tout ça, c'est tous des moyens avec lesquels ils ont été davantage floodés, comme on dit dans le jargon, l'Internet, puis que ça a saturé à ce moment-là toutes les connexions un peu partout. Fait que c'est le Ghost Squad Hackers Group qui a produit ça, le même genre de groupe de hackers qui ont attaqué d'autres gros sites à travers le monde, comme CNN, ISIS, le gouvernement israélien, etc. Et ce qui est particulier là-dedans, ils ont publié encore là un serveur Windows 2013 qui est hébergé en Allemagne avec tout ce qui est des qu'est-ce qu'ils ont pris pour être capables d'y accéder, plus démontrant qu'ils ont été capables d'avoir une bande passante de quasiment 1 gig. Bon, encore là, on peut en prendre et en laisser. Cependant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'eux autres, ils ont mis certaines preuves. Mais comme on a vu par le passé, beaucoup de groupes de hackers qui ont pris la pole et ont dit hey, « c'est nous autres qui avons fait tel événement » puis qu'en arrière-plan des forums de discussion, on se rend compte que c'est de la boucane puis que ça n'a aucun rapport que ce soit eux. Dans ce cas-ci, à date, il n'y a personne d'autre qui a dit le contraire. Ça se peut fort bien qu'ils aient fait ça, mais encore dans un but pourquoi. Présentement, on peut juste conclure que c'est un but de démonstration de capacité à arrêter les grands de ce monde à opérer avec une attaque de déni de service distribué.
Oui, mais en même temps, il n'y a pas de mérite. C'est comme ouvrir la bonne fontaine puis arroser quelqu'un. Il n'y a pas de mérite, mais en même temps, on est dans un drôle d'univers à ce sens-là où on est comme... On laisse trop de devices non protégés, donc on donne trop de capacité, donc on donne du firepower à des gens qui ne devraient pas en avoir. Puis en tant que citoyen, on participe malgré nous dans certains cas, les gens qui sont moins éduqués technologiquement parlant vont être participants malgré eux dans ces éléments-là.
Je suis d'accord avec toi, Nicolas, mais on parle d'un serveur qui doit être utilisé dans un environnement où des gens qualifiés l'entretiennent, puis je crois que c'est encore une fois de la négligence, tout comme des compagnies qui mettent des mots de passe par défaut sur des appareils, puis en passant, la Californie vient de faire un pas de géant là-dedans en votant une loi qui va empêcher les fabricants d'avoir des mots de passe par défaut constants, permanents sur les appareils. Fait que si ça s'en va dans cette direction-là, que les gens, on sait très bien, ne lisent pas le manuel utilisateur.
Sérieux?
Ah, oh, je te le dis, là, je te nouvelle peut-être une primeur aujourd'hui, mais en tout cas, moi aussi, je tombais en bas de ma chaise l'autre jour, puis...
Bon, on revient toujours sur le fait qu'il faut regarder ça de côté de santé publique, c'est-à-dire qu'il faut que le législateur ou l'État arrive et prenne les gens par la main, leur dire c'est mal ce que tu fais, c'est pas bien pour ta santé. Puis, et en sécurité, je pense qu'on est rendu à cette phase-là où on commence à le voir, le RGPD est un exemple européen, puis aux États-Unis, on commence à voir de plus en plus où le législateur commence à devoir tenir la main des gens et des compagnies pour dire non, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mal manger, c'est pas bon. Mais c'est sûr qu'on s'en va dans cette direction-là. Donc, enchaînons avec une autre nouvelle. Aux États-Unis, ben, à moins que vous viviez en dessous d'une roche, vous avez douté que le midterm s'en vient, aura lieu début novembre. Et étant donné que c'est une élection qui est quand même assez pivot pour les États-Unis dans cette circonstance où il y a beaucoup de mouvement entre républicains et démocrates pour qui va recontrôler les deux chambres aux prochaines élections. Les différents paliers de gouvernement et d'État et de tout ont commencé à investir beaucoup d'argent et beaucoup de temps, incluant aussi tous les grands des médias sociaux, dont Facebook, Twitter et ainsi de suite, pour commencer à lutter un peu sur lequel ils ont été un peu accusés lors des dernières élections, d'avoir participé à propager des fake news qui, dans ce cas-ci, on présume, ont avantagé Donald Trump et les Républicains. Donc, ils essaient de reniveler le terrain et aussi de se prémunir contre les acteurs extérieurs qui sont hostiles aux intérêts américains. Et on ne se cachera pas qu'il y en a plusieurs acteurs étrangers qui sont hostiles aux Américains. Donc, beaucoup de gens motivés et intéressés à les... s'immiscer dans le résultat de ces élections-là. Donc, c'est intéressant de voir la quantité d'énergie, d'argent et de choses qui vont être faites pour lutter contre un problème, pour régler des fake news. Maudite fake news.
Fake.
Et enchaînons avec D-Link, qui est un peu dans l'embarras parce qu'il y a deux problèmes de sécurité qui ont été soulevés avec eux autres.
Oui, bien c'est en même temps, c'est quasiment l'évidence même que les compagnies de routeurs, j'appelle ça des routeurs domestiques, pour amener la capacité de router tout ce qui se passe dans un établissement, dans une maison, vers après ça l'Internet, offrant du Wi-Fi, etc. D-Link, encore là, s'est fait avoir où le code s'est fait craquer et c'est bien difficile à ce moment-là de dire bon, mais mon code, il y a ça qui a été craqué, l'appareil a été end of life, autrement dit, il a été signifié comme quoi que la compagnie ne le supportera plus. Ne va pas de l'avant à aviser les usagers, les anciens clients, pour dire les clients actuels, de dire que l'appareil a été compromis et elle n'est plus supportée, veuillez changer, etc. On le voit à travers les dernières années comme quoi que de plus en plus de routeurs domestiques de ce type-là, pas juste D-Link, mais d'autres compagnies, se font à ce moment-là. Le code devient à ce moment-là vulnérable et il n'y a pas de patch qui est sorti. Et pour compenser, la compagnie dit juste, bien, on ne supporte plus, aller en acheter un nouveau. Fait qu'eux autres, ça les bouche le ventre, etc. Mais pour monsieur et madame tout le monde, la majorité du temps, ils ne le savent pas. Surtout quand il est arrivé le crack attack l'année dernière, le crack attack qui s'en est pris tout ce qui est le chiffrement WPA, WPA2. Donc, dans l'échange des clés des quatre étapes, faisait en sorte que tu es capable de ramasser les clés. Mais tous les produits Wi-Fi ont été à risque, et je devrais dire, sont toujours à risque parce que j'en connais des organisations qui n'ont pas patché parce que soit qu'ils ne sont pas au courant ou qu'ils n'ont pas mis les efforts, ne veulent pas mettre les efforts pour corriger la situation pour X, Y, Z raisons. Malheureusement, ça compromet la sécurité de l'information qui peut être échangée. Ça leur appartient, cependant, comme on fait présentement, on répand la nouvelle disant, bien, si votre routeur ne fait pas 802.11n comme capacité, autrement dit, il ne va pas la vitesse N en termes Wi-Fi Alliance, bien, changez-le, offrez-vous un nouveau cadeau, faites-vous un cadeau, offrez-vous un cadeau de Noël, peu importe, et allez vers un routeur qui est plus moderne, parce que vraiment tous les routeurs qui faisaient 802.11G et moins, comme 802.11A et B, ça fait en sorte que la sécurité, elle est compromise et ne seront sûrement pas protégées et supportées par les compagnies. Fait que c'est là le rappel, où il y a encore là, pas juste D-Link, mais les autres organisations, c'est de voir à garder un routeur récent et peut-être prévoir dans un budget sur 5 ans de racheter un routeur aux 5 ans pour être capable d'être supporté correctement.
Mais le gros problème là-dedans, c'est que le consommateur moyen, il n'y a pas vraiment de manière de le rejoindre pour qu'il comprenne ça. Puis pas juste qu'ils comprennent, là, qu'ils le sachent tout simplement. Là. Ça reste que peu importe ce
qu'ils mettent l'argent aussi, parce que bien des gens n'ont pas nécessairement cet argent-là à mettre constamment dans les. C'est un peu un drôle de concept de devoir dire qu'on doit changer de périphérique à tous les 4 ans. Pour une entreprise, on est habitué à ça, mais la personne qui n'est pas nécessairement en moyen, qui a un petit ordinateur un peu désuet, avec un accès Internet un peu désuet, là, on dit ben là, il faut que tu changes ton chose parce que maintenant, tu es vulnérable, puis là, on va tout te voler.
Oui, mais là-dessus, Nick, ils font la même chose avec un téléphone cellulaire. Les iPhones, comment est-ce qu'il y en a qui ont changé aux 2 ans, puis il était très bon le téléphone avant, puis là, tout d'un coup, ils sont capables de justifier un nouveau plan aux 2 ans de changer de téléphone qui repaye quasiment une fois et demie là, à chaque fois. C'est d'éduquer encore là les gens, de leur faire comprendre que, comme tu as apporté, si vous ne le corrigez pas, si vous ne le changez pas, ben attendez-vous que votre identité soit volée, attendez-vous que vous allez avoir des données bancaires peut-être une année qui vont faire en sorte.
Ouais, mais moi, ce que j'ai inconfortable, c'est qu'on déplace sur la responsabilité sur les gens de décisions qui ont été prises par des compagnies du droit d'abandonner parce qu'ils disent « Ah, je m'en fous, je jette au vidange cette série-là parce que je veux
c'est facile, non?
Fait que je trouve ça un peu irresponsable des grandes compagnies de faire porter le fardeau, surtout à des gens qui sont rarement éduqués. Je veux dire, mes parents ne sont pas super éveillés à ce genre de choses-là. Et oui. si j'étais pas dans le domaine, ils seraient encore plus dans le pétrin qu'ils sont.
C'est pour en faire. Par défaut, ils pensent qu'en achetant ça, ils sont sécuritaires aussi. Là, c'est pas. C'est pas marqué sur la boîte, va être désuet bientôt, vous allez vous faire voler et tout. Hein. C'est comme une voiture, hein. Elle est supposée d'avoir des brakes, puis elle est supposée de résister un peu aux accidents, mais pas sur ces affaires-là.
Et Patrick, j'aime ton analogie parce que, veux pas, si quelqu'un n'entretient pas son véhicule, il est à risque, puis s'il est prouvé qu'il a négligé son entretien, c'est lui qui est responsable. Mais on n'a pas cette réflexe-là présentement avec le matériel électronique. Ouais.
Sauf que là, ils fournissent même pas la patch, fait que là, t'es même plus dans ce problème-là.
Ah, exactement. Là, c'est comme t'as un vieux véhicule, mais t'as pas de pièce non plus qui est produite pour la mancher. Puis je relance Nicolas dans
un vieux véhicule, c'est foutu un véhicule de 30 ans pour que ce soit plus entretenu. Un véhicule de 20 ans va être encore entretenable de nos jours, et si t'as un peu d'argent, tu vas être capable de l'amener.
Là. Et s'il en vient vintage, ben à ce moment-là, il va prendre la valeur plus que ça devient une dépense. Ça, c'est un fait. Là.
Pas ton hauteur.
Non, définitivement pas. Mais Nicolas, je vais te relancer sur une idée, par exemple. Est-ce que lorsqu'on a les compagnies qui font des études programmées, bien, de plus en plus, les gouvernements, il y a certains programmes gouvernementaux qui s'en intéressent pour protéger justement les organismes de protection du consommateur, s'en intéressent à ces dossiers-là parce que ce sont les leviers avec lesquels ils vont être capables de faire changer la philosophie des entreprises. Nous autres, on peut aussi bien en parler, mais on n'aura pas le levier que va avoir un gouvernement en mettant en légiférant. Et ce serait d'adresser ça avec les députés élus dans le Parlement. Et j'ai commencé déjà à faire des représentations comme ça avec mon député de comté, puis elle va me trouver fatiguant dans les prochaines années parce que c'est des dossiers où je veux que ça passe par la législation officielle. Puis il faut qu'à ce moment-là, les gens d'un fonds commun s'adressent aux élus puis qu'ils font leur job. Puis, dans ce cas-ci, c'est de protéger la population contre ces pratiques-là de l'industrie.
Tout à fait, entièrement d'accord avec ça. Puis, enchaînant avec la dernière nouvelle sur recyclage de code de Corée du Nord.
Eh oui, il y a une nouvelle attaque qui a été publiée par McAfee jeudi dernier, un nouvel type d'attaque qui s'appelle Ocean Salt cette fois-ci. Et Ocean Salt, qu'est-ce qu'elle fait? C'est encore là de s'attaquer aux infrastructures essentielles. Sea Salt, qui était son prédécesseur, était donc la base du code. Et comme tout le monde est dans une mouvance de recyclage, bien, ils ont recyclé le code qui était utilisé dans Sea Salt, ils l'ont rebaptisé Ocean Salt. Et ça, en passant, c'est McAfee qui fait le baptême de ces codes-là. Mais fondamentalement, l'unité APT-1 qui est attribuée à la Corée du Nord, veulent s'attaquer aux infrastructures essentielles de la Corée du Sud et en même temps envers certaines organisations aux États-Unis et au Canada. Au Canada, ce qui a été identifié, c'est que le code s'attaquerait à l'industrie de la télécommunication pour possiblement l'investir et peut-être exploiter les moyens de communication. Puis ça, en même temps, ça me faisait penser à tout qu'est-ce qui se passe avec l'intérêt sur les moyens de télécommunication ici au Canada. Si on parle dans ces moyens-là, on va dire on s'en va vers le 5G prochainement. Et il y a beaucoup de discussions actives envers tout ce qui arrivera avec Huawei et ZTE, qui sont deux consortiums, de gros importants consortiums chinois qui veulent venir s'installer aussi au Canada, que l'Australie a dit non à ça, les États-Unis ont dit non à ça. Fait que ce qui me laisse croire que peut-être à travers la PT1, ils veulent avoir davantage d'informations et comprendre la dynamique qui se passe sur les réseaux cellulaires. Fait que Ocean Salt s'en prend maintenant à l'infrastructure qu'on peut ici dire qu'elle est fiable, mais qu'à ce moment-là, s'ils trouvent une faille, ils vont pouvoir à ce moment, l'exploiter et peut-être utiliser dans des discussions, comme il s'est été vu avec le deal de la potache en Saskatchewan précédemment, il y a quelques années, et aussi la vente d'un pétrolier, pas de pétrolier, une compagnie pétrolifère à Calgary. Puis à ce moment-là, ils ont contaminé les discussions, puis ils ont gagné avantage en allant exploiter l'information. Donc, la négociation n'était pas faite de façon honorable, dans le sens qu'il n'était pas faite neutre. Il y avait un parti avait l'avantage sur l'autre. Donc, c'est des choses comme ça qui se promènent sur les internets.
Ouais, ouais, ouais. Donc, ça termine nos nouvelles pour cette semaine. J'en profite pour l'occasion pour informer qu'on va avoir plusieurs segments techniques ou des segments non hebdomadaires qui devraient sortir prochainement, dont sur Pipeda, dont sur la chip T2, dont sur plusieurs éléments là, qu'on a gardés en banque parce que, considérant que la quantité de nouvelles qu'on a au quotidien de façon hebdomadaire sur la sécurité, je pense qu'on ne peut pas passer à côté pour différents éléments. Puis surtout que cette semaine, Steve nous en a entretenu sur une barge de nouvelles très intéressantes. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine.
Et à la prochaine.
Salut! Merci.